pris dans le cercle.
Vous n'avez pas le choix. L'un ou l'autre est la marque de l'un à l'autre. Alors, c'est le carré inscrit dans le cercle. Et alors, le carré inscrit dans le cercle, c'est tout le principe de Vénus qui est en jeu. C'est Vénus, ça. Autrement dit, notre thème est un masque, parce que c'est un cercle inscrit dans un carré, qui vise à transférer le carré dans le cercle, et le moment où il a réussi ça dans une mesure quelconque, il est devenu vénusien, le thème. C'est ça. Il est devenu vénusien. Dans une vie normale, on peut dire dans une vie de 80 ans normalement, avec un thème assez harmonieux, définitivement, on connaît des harmonies, on connaît des accords, on connaît des formes de perfection que l'on a payé cher au début de l'existence, et on y vient. On a commencé par le sacrifice, car Marx est un sacrifice, toujours. Il n'y a rien. Saint Paul disait que le royaume des cieux n'appartient qu'aux violents, il avait parfaitement raison. Le plus grand péché, c'est l'indifférence. C'est le neutralisme. C'est l'incapacité de réagir à n'importe quoi. L'homme bien médiocre est plus déficient que le mal puissant. Parce qu'il y a dans la puissance même, il y a une vertu. Il y a un dégagement de quelque chose. Il vaut mieux ça, mais enfin ça, naturellement, pour nous, c'est des banalités, ça va de soi. Mais voilà l'idée de faire d'un cercle dans un carré un cercle qui aura maté le carré en l'absorbant. Car visiblement, Vénus a absorbé le carré. Autrement, ce ne serait pas Vénus. Et notre Vénus, dans notre thème, représente une somme incroyable de carrés qui ont été absorbés par le cercle. Autrement, ce ne serait pas Vénus. Et Mars, dans le thème, représente un programme de capacité, de direction, d'absorption de nouveaux carrés pour les transformer en tours, en cercle. Voilà pourquoi Mars est une puissance sacrificielle. Parce que Mars nous oblige de sortir de notre inertie. Et que l'une des choses que l'homme aime le plus, c'est son inertie. Il n'a pas dit que l'homme est né paresseux et ne cherche qu'à le devenir toujours davantage, n'est-ce pas? Alors vous voyez, quand tout d'un coup vous êtes mordu par une passion, vous imaginez que vous n'êtes plus inerte, hein? Ah, vous ne l'êtes plus. Et que la puissance créatrice de la passion, vous fait entrer tout de suite dans le grand train du courant cosmique. Vous croyez que c'est votre amour. Et quand un jeune homme aime pour la première fois, il s'imagine que personne n'a jamais aimé avant lui, n'est-ce pas? Jamais avant lui, c'est lui qui a découvert l'amour, n'est-ce pas? Eh bien oui, mais c'est justement toute la naïveté du petit diable que nous sommes. C'est vieux comme le monde, et c'est tellement essentiel qu'il ne pouvait pas faire autrement de graviter là-dedans, et il ne fait que lui-même se répéter de ce qu'il a déjà vécu et connu avant. Comment aurait-il pu réagir à ceci maintenant s'il n'avait pas réagi auparavant et qu'il avait une antériorité formidable dans ce domaine? Alors, ceci dit, donc c'est donc cette image-ci, là, thème départ, cercle dans le carré, thème final, carré dans le cercle. Voilà l'aboutissant. Or, la balance, c'est l'ascendant spécifique de l'opération qui va tester maintenant, va vous donner les moyens, sur la plus grande échelle, de transformer Mars en Vénus. Et c'est l'ascendant de la transformation de Mars en Vénus. Voilà pourquoi la balance, c'est un des plus grands signes de diable. C'est celui qui a permis le montage du monde lui-même. Vous entendez? Du monde lui-même, et par conséquent, de la Terre elle-même en tant que stabilité d'éléments. L'élément Terre représente une stabilité extraordinaire par rapport à l'élément eau, l'élément air, etc. Il a fallu de balance pour faire l'élémentaire, c'est quelque chose de fantastique. Et nous apprécions la Terre puisque nous marchons dessus. Et nous voyons bien quand il y a un tremblement de terre comme à gagner. Alors, ceci dit, je vous montre là au tableau noir un seul thème, c'est-à-dire un seul dispositif. Je n'ai pas besoin d'en montrer deux. Je n'ai pas besoin de montrer l'autre parce que celui-ci inscrit en lui-même l'autre. puisque la loi d'analogie est formelle et qu'il ne peut rien arriver à vous qui soit inconforme au dispositif de votre propre horoscope. Il ne peut rien vous arriver qui ne soit pas dans ce dispositif-là. Alors, je ne regarde qu'un seul thème, c'est celui-ci. Vous l'avez vu, Madame Leclerc. C'est simplement, prenant la septième maison comme point de départ, en voyant un trigone à la 11, un carré à la 10, un sextile à la 9, n'est-ce pas? Les aspects majeurs et dynamiques. Ici, vous avez la 3, qui alors, elle, envoie un trigone à la 7, la 4, qui fait un carré à la 7, et la 5, qui fait un sextile à la 7. Si, voilà la loi du zodiaque, elle est posée, elle est là, c'est la loi, c'est le prototype zodiacal. Si le zodiaque n'était pas ça, il n'y aurait aucun moyen d'arriver à n'importe quel succès ou à aucune fin vraiment heureuse qui justifierait le sens même de tout le bonheur, de nos peines et de nos souvenirs dans la balance. Rien ne tiendrait debout. Bon, alors, voilà le zodiaque normal. Si j'ai un thème, ça n'existe pas, ce thème. Il existe dans le zodiaque, mais il n'existe pas dans l'individu. L'individu est dans le monde précisément pour graduellement s'aligner sur cette loi. Graduellement, il y monte, cette loi. Mais ça, c'est le zodiaque parfait. Si j'avais un thème qui représenterait à zéro de la balance, Vénus, bien entendu, les maîtres naturels du zodiaque, Vénus, zéro balance, zéro Gémeaux pour la 3, Cancer pour la 4, Soleil, Lion pour la 5, Vierge pour la 6, Bélier pour la 1, Uranus pour la 11 et Poisson pour la 12, Neptune pour la 12. Si j'avais un thème, ou si par extraordinaire, alors dans le thème humain, je pouvais voir une planète en 7, est venue, une 7 de la 11, disons, pour remarquer que c'est bien Vénus ici, pour être le plus près d'être immédiat à ça. Si je voyais une planète en 3 qui fait trigone à cette planète de 7, si je voyais une planète en 4 qui fait carré à cette planète de 7, une planète en 5 qui fait le sextile à cette planète de 7, si de l'autre côté j'envoyais une sextile en 9, carré en 10 et trigone en 11, je vous dis que j'ai devant moi le monsieur, le personnage, qui va avoir la vie du couple la plus idéale, la plus parfaite, la plus complète, la plus ronde, la plus harmonieuse qui soit. Et c'est absolument, je pense, improuvable de l'avoir exactement comme ça. Et tout de suite, vous allez voir l'importance des maisons sous l'horizon. Parce que les maisons sous l'horizon, ce sont les vôtres. Et ici, 3 envoie le trigone à 7. La 5 fait un sextile avec la 7. La 4 impose à la 7 quelque chose par la quadrature. Alors, disons que vous êtes prêt à envoyer tout ce que vous avez dans votre 3 à votre 7. C'est vous qui apportez à l'autre. Tout ce qui est sous l'horizon, c'est vous, première maison, qui l'apportez à l'autre. C'est vous qui l'apportez à l'autre. Mais tout ce qui part de 7 et qui part au-dessus de l'horizon, c'est l'autre qui vous l'apporte. Donc, le schéma est de 7 à 12. C'est l'autre qui apporte à vous. Et le schéma est que de 1 à 7, c'est vous qui apportez à l'autre. Alors, c'est le pendant l'un de l'autre exact. J'apporte par le trigone, troisième, septième, par l'intelligence, par le mercure que j'ai, qui se porte amoureusement sur cette planète de septième maison, qui la comprend, qui l'aide tout le temps, qui l'éclaire tout le temps. Par cela, par ma quatrième maison qui lui fait un carré, cette quatrième maison rectifie constamment une certaine position du mouvement de l'autre. Elle lui sert de là comme point de référence. La quatrième va servir de point de référence au mouvement de l'autre dans la balance. qui ne pourra jamais s'écarter loin de son point de référence. Et Massinck lui fait sextile. Alors ça lie avec lui, c'est une concordance d'opérations. Mais ce n'est pas une union, c'est une concordance d'opérations. De sorte que si l'autre voulait un peu, comment dirais-je, sortir des gonds, le sextile le tient. Je tiens admirablement l'autre dans le sextile, je lui impose à l'autre, je lui permets d'avoir un phare dans lequel il peut suivre le mouvement de son développement par le carré, et par la troisième maison, je lui envoie toute ma lumière. C'est moi qui donne tout ça à l'autre. Moi, moi et moi. Et je dois lui donner. Et c'est normal que je lui donne. Et à la condition que je lui donne, lui va me donner l'équivalent. Et il va me le donner sur l'horizon. Et vous voyez que tout ce qui est sur l'horizon est déjà le collectif. Tout ce qui est sous l'horizon, c'est l'individu. C'est de l'individu qui va au collectif. Et le point où les deux se marient, c'est la balance. Et de cycle en cycle, l'opération continue et se reprend. Je donne, puis je reçois. Je donne et je reçois. Puis je donne et ensuite je reçois. C'est pas bien plus long. Et puis ensuite, je redonne après avoir reçu. Et conformément à ce que j'ai reçu, je suis capable de redonner. Et l'autre fait la même chose tout le temps. Et tout le temps, la roue tourne sans grincement du tout. Dans un lumière d'une façon sacrée, d'une façon absolument magique. 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 Est-ce que ça est compris? Jusque-là, avant que je continue. Monsieur Schoenborn, ça vous suggère quelque chose dans votre longue expérience d'observation astrologique? Comment? Et vous, vous avez couché? Bon, moi, ça va. Et vous, Mlle Lam? Ces choses sont pressenties quand on pratique l'astrologie, quand on est passionné de lecture astrologique. Mais c'est rare que ça prend, ça se cristallise d'une façon définitive dans l'esprit. Que c'est ça qui est à l'origine de toutes les opérations du zodiaque. Et que c'est le but final. Alors, ceci dit, vous voyez, je n'ai pas eu besoin de considérer l'autre. Rien que moi-même, si j'avais ça, je savais ce que devait être l'autre pour moi. L'autre pour moi, prenant, car nous nous rencontrons, moi et l'autre, nous nous rencontrons dans la balance, pas dans le bélier. Ce n'est pas les premières maisons qui se rencontrent, c'est les septièmes. C'est les deux septièmes. L'autre tourne sa septième vers moi. Moi, je tourne ma septième vers lui, et les deux septièmes, c'est une juxtaposition pour la balance qu'elles sont. Donc, l'embrayage se fait des roues, dans les roues du thème, elle se fait dans la septième, et si le maître de sept est harmonieux dans les deux cas, et si le maître de sept est harmonieux dans mon cas, le maître de sept sera harmonieux aussi dans l'autre, c'est pas possible autrement. N'est-ce pas? Et alors, ta mort, ça fait tourner les roues, et maintenant nous passons à la maison suivante, puis à la maison suivante, puis à la maison suivante. Si tout le temps j'ai ces harmonies dans mon thème, fatalement, ma compagne va s'accorder là-dessus parfaitement, et moi, je vais certainement savoir que dans son thème, il y a l'équivalent. Je suis déjà dans son thème à sa naissance, et elle est déjà dans le mien à la sienne, à ma naissance. La vie n'a été que simplement la mise en manifestation, la découverte graduelle de ce qui était déjà dans le contenant du thème radical. Alors, ceci dit, laissons le schéma tel qu'il est et regardons la chose maintenant plus spécifiquement dans des cas particuliers. Ah oui, c'est très important que vous vous rendiez compte ici de cette verticale. Cette verticale, on va la retrouver là. Elle est formidable, cette verticale. Là, voilà. Là, vous allez comprendre beaucoup de choses sur le sens de la croix cardinale et surtout de la verticale de la croix cardinale. Car c'est un fait d'expérience, et la logique, nous la voyons dans la dans la science du sujet, ce serait pas possible que plus autrement, que si vous avez une majorité de planètes en 4 et une autre majorité en 10, de manière à ce que vous allez avoir de ce qu'on appelle des complémentarismes, des oppositions 4-10, et que vous n'avez rien réellement qui vous engage ni en 1 ni en 7, la vie va être pour vous tout autre chose que si ça se passe entre 7 et 1. Vous avez des thèmes formidables de 7 à 1. Et vous savez que dans ces cas-là, ce n'est pas le sens de la vie qui va être la question dominante. La question dominante, ça va être votre comportement. Un comportement qui va être mesuré toujours par le challenge, la gageure que vous présente l'autre. Et vous en êtes tellement pris là-dedans, vous n'avez pas le temps de beaucoup penser au sens de la vie. Vous êtes en train de découvrir le sens de vous-même, n'est-ce pas ? Et vous ne pouvez pas penser au sens de la vie sans avoir quand même quelques notions sur le sens de vous-même. Parce que vous allez probablement projeter très naturellement le sens de vous-même et appeler ça en prolongement le sens de la vie, n'est-ce pas ? Et si vous êtes borné, vous allez dire le sens de la vie, il n'y a pas d'autre sens que celui que j'en ai. Et si vous n'êtes pas borné, vous allez dire « Oh, il y a beaucoup plus de sens que celui que j'en ai, mais enfin, j'en découvre au moins un. » J'en découvre au moins un. Mais alors, si l'opposition se fait 4-10, c'est sur la verticale de la croix, et la verticale, c'est ça le sens de la vie. Parce que c'est la verticale qui monte au soleil. C'est la verticale qui est héliocentrée. C'est la verticale qui est héliotropique. Attention! La verticale n'est pas géotropique, elle est héliotropique, elle tient. Elle tient la Terre au Soleil, et donc elle tient là, elle tient ça, à ça. Et ceci représente le Soleil céleste maintenant, le Soleil du ciel. La liaison organique entre le Soleil céleste, la Terre et la Lune, la voilà. Elle est répétée tous les jours dans toute la vie de la Terre et de chacun de nous. C'est la même chose qui s'opère à notre niveau tout le temps, implacablement, avec une assurance et une régularité d'horloge et de cadre et de tout. C'est ça qui nous donne notre sentiment quand même que nous de sécurité, que demain ressemblera essentiellement à aujourd'hui, et que demain nous aurons à peu près les mêmes dispositions, les mêmes moyens, les mêmes cadres qu'aujourd'hui. Enfin, c'est cette stabilité d'un système solaire, quoi. C'est ça. C'est ça. Alors, rappelez-vous que la verticale de la croix cardinale, c'est-à-dire le Capricorne au Cancer, marque exactement le cheminement du sens de la vie. Qu'elle est une montée héliotropique vers le soleil, vers une ampleur extraordinaire, vers une dimension du cercle qui a alors lui inclut en lui tous les carrés, les uns après les autres, qu'on y ait montré de carré en cercle et de cercle en carré tout le temps, que c'est ça. Rappelez-vous que dans le thème, le zodiaque, le soleil, va toujours dans le sens opposé à tous les planètes, que le soleil en réalité ne bouge pas du tout, mais que tout se passe comme si son mouvement était converse. C'est le solas qui va de la 1 à la 10, et non pas de la 10 à la 1. Et ça, c'est tout un monde, n'est-ce pas ? Et que tout un principe de converse, de progression converse est révélé et gît là-dedans. Mais ça, c'est un autre sujet que je prendrai, j'espère, beaucoup cet automne. Alors là, nous entrons dans une astrologie formidable en profondeur. Voilà. Mais là, je reviens à ceci. Alors, votre 4, c'est votre passé. C'est votre, vous appelez ça votre famille. Petit diable d'homme que vous êtes, c'est votre famille. Mais au-delà de votre famille, dans l'histoire de votre famille, c'est le passé, la 4. Vous venez de plus bas que 4. La 4 est déjà un sommet achevé par l'incarnation. Et vous montez à une 10. Et vous voulez arriver à ce qu'on appelle, il n'y a pas de maturité en 4, mais la maturité est en 10. La maturité interdite. Voilà pourquoi le principe solaire qui est représenté par le Père est représenté par la 10. Et que le principe lunaire qui représente la mère est représenté par la 4. Les deux sont complémentaires et jamais opposés, n'est-ce pas ? C'est ça. Alors vous montez au principe solaire graduellement, mais pour y monter, il faut les pas de l'escalier qui représente les maisons et la balance surtout, c'est le grand carré, qui va vous permettre de passer à 4, de 4 à 10. Et c'est pas la balance seulement, vous arriverez à 10. Ou pas. Non, vous ne pouvez pas le faire par l'ascendant, vous ne pouvez pas le faire dans l'autre sens. Vous irez à votre 10 par votre 7. Saturne est là-haut, il est là et il attend que vous ayez atteint ceci avant de vous prendre là plus haut. La balance n'a qu'un but que le Capricorne. Et dans le Capricorne, qu'avez-vous? En définitive, vous avez l'exaltation de l'âme. C'est fini là. Il n'y a plus besoin de veiller, il n'y a plus besoin de s'engager, il n'y a plus de sacrifice. C'est fait. Tout a été obtenu, tout a été réalisé. Et Jésus a pu dire, j'ai accompli ma tâche, j'ai fini mon œuvre, tout est dit. Alors, tout est dit quand Mars est exalté dans le Capricorne, quand il n'y a plus besoin de faire travailler ce pauvre Mars de première maison sur la tête. Tout est dit. Alors, pour finir, qu'est-ce que c'est que le thème? Pour finir, c'est tout simplement un immense passage, une route royale qui va tout le long de 4 à 10, de 10 à 4 à 10, de 10 à 4 à 10. De sorte que mince à l'origine, à force de faire le jeu de la balance, graduellement, elle s'élargit et graduellement, c'est elle qui prend tout le thème en main. De sorte qu'une série de verticales a pris la place d'une série d'horizontales. Et le schéma fondamental du passage du chaos à l'ordre, c'est quand les horizontales sont absorbées par les verticales. Mais la procédure de ça, c'est la balance. C'est la balance. Et voyez-vous, maintenant vous avez deux thèmes. L'autre, ici, il a son Capricorne et il a son cancer, l'autre. Il a son axe vertical. Le résultat final de la recherche ici, de faire de 2, 1, n'est-ce pas, c'est Vénus, ça. 1 plus 1 font 1. Voilà. C'est ça, Vénus. Or, le 1 qui est vous, ici, c'est votre sens de la vie, c'est votre mandat, c'est votre direction d'ascension. L'autre, ici, il a aussi sa verticale qui est son sens de la vie. S'ils sont parallèles réellement, c'est qu'ils sont à deux pas de devenir un seul chemin de la vie. De sorte que l'épaississement de la solidité de la croix, de l'arc du bras solsticiel, parce que le bras de janvier-juin, n'est-ce pas, c'est janvier ici et juin là, c'est ce que je dis, 21 décembre, 21 juin, ce fameux axe-là, cela tant ne peut grandir que par l'addition de verticales qui sert de plus près, qui se confondent, et finalement, c'est les deux deviennent. Hein. De sorte que pour finir, il n'y a plus que la verticale. Mais il a fallu que toutes les horizontales de tout le monde y contribuent leur part. Ils contribuent leur part. Eh oui, ils contribuent leur part. Vous ne pouvez pas seul arriver au ciel. Ça n'existe pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez pour ça, ça n'existe pas. Il faut la balance. Et si dans une existence donnée, on voit la vie vraiment vocationnelle d'un moine, une vie vraiment de retraite cistercienne, n'est-ce pas, c'est que dans cette existence, il avait un temps d'arrêt, un temps où il fallait qu'il récapitule, qu'il exploite les anciennes balances, et puis comment? Il fallait qu'il en extrait la quintessence de balance déjà achevée. Si vous imaginez que si c'est la vocation d'être cistercien, la 12e maison est une maison d'un roman spirituel phénoménal. Et le roman spirituel est un roman d'amour, et cet amour n'est pas une chose qui est sortie du bleu, ça vient d'anciennes balances, n'est-ce pas, dans une hiérarchie du tonnerre. Il fallait être appelé par ça. On n'avait qu'à faire le thème de quelques véritables vocations cisterciennes pour vous en rendre compte. Ce sont les gens les plus heureux, parce que pour eux, le sacrifice de l'ego, mais c'est la joie suprême, c'est l'amour suprême. Et qu'au fond, personne, mais au fond, personne ne tient à vivre sa propre vie. Au fond, nous voulons tous nous connaître. Nous cherchons quelque chose qui en vaille la peine. C'est un Jupiter, se donner à quelque chose de plus grand que nous. La souffrance que l'on voit dans la rue, elle est due, d'une part, à ce que les gens ont perdu à quoi ils avaient à se dévouer, et dans laquelle ils avaient le sens de la réalisation d'eux-mêmes. D'autres l'ont perdu simplement parce qu'ils n'ont pas de but à leur histoire. Ils ne savent pas à quoi se donner. C'est autrement dit, ils se cherchent une religion. La jeunesse hitlérienne a été un but donné à la jeunesse allemande à un moment donné. L'organisation des jeunes, ça a été ça. La mise dans un uniforme, le sentiment d'appartenir à une collectivité, à quelque chose de plus grand que soi. À quelque chose de plus grand que soi. Évidemment, c'est les gens qui ont Jupiter pour le maître de Sagittaire pour le maître de 8 et un bon Jupiter. Quand ils pensent à la mort, ils pensent à quelque chose de plus grand qu'eux. Pas de plus petit, mais de plus grand. Alors ils sont tous disposés à s'embrayer, à devenir une recrue d'une armée magnifique auquel ils sentent qu'ils vont entrer quand ils mourront, 8e maison. Voilà pourquoi le Sagittaire, bien aspecté, en 8e maison, la mort n'effraie pas. Et non pas qu'elle attire nécessairement, mais elle n'effraie pas, elle est le cheminement naturel d'une montée vers le plus grand. Maintenant, analysons un peu cette 4e et 10e maison, c'est capital. Alors maintenant, moi, je suis ce personnage ici. Eh bien, qu'est-ce que je veux ? C'est mon thème. Si c'est mon thème, qu'est-ce que mon âme veut ? Moi, j'en sais rien. Mon ego seul, c'est. Ma première maison seule, c'est quelque chose. Elle est très limitée, ma première maison. Mon pauvre petit cerveau, c'est un pauvre petit diable. C'est mon âme qui sait. Ça correspond à la phrase « Je propose ». Ah, bélier. Je propose. Et Dieu dispose. C'est Dieu, c'est le thème entier. Ça, c'est le dispositif du thème entier pris dans la cosmique, dans la volonté cosmique, la volonté du ciel, la volonté de Dieu. Et étant donné cette constitution de votre thème, la volonté cosmique ne peut que s'appliquer à vous de la façon dont le thème l'autorise à s'appliquer. Voilà. Et alors là, Dieu dispose. Mais vous proposez. Or, secrètement, mon âme dispose. Voilà la situation. Dans le thème, c'est mon âme qui dispose. C'est sorte que vous, très souvent, vous devez dire ce qui m'est arrivé, mon âme voulait que ça m'arrive alors que mon ego a protesté violemment. Alors que mon ego a protesté violemment, oui, mais mon âme savait mieux que ça. Elle savait que c'était dans mon destin. Et tout ce qui s'appelle l'étude de l'astrologie, en fin de compte, c'est d'apprendre ce que notre âme veut de nous, veut de notre incarnation. Ce n'est pas autre chose. C'est une consultation constante et un confessionnal constant auquel nous allons et nous parlons à notre âme et nous disons, ben me voilà, j'ai cru que c'était ça qui était bien, j'ai pas vu plus loin que mon nez. Évidemment, je ne pouvais pas voir plus loin que mon nez. Mais toi, mon âme, tu le sais. Mais comment puis-je savoir si tu le sais? Et comment peux-tu me donner quelques indications pour l'avenir? Eh bien, je regarde les problèmes, la nature de mon thème, je l'apprends à le connaître mieux, et j'en suis mieux le sens des progressions dans le temps. C'est ça. Quel dialogue avec son âme et l'analyse de son thème astrologique. Mais quel dialogue, bon Dieu. C'est ça. Alors, maintenant, dans ce thème, celui qui a ce thème, on ne va pas dire ce que lui pense, parce que ça n'existe pas. C'est que son âme, sait ce que son âme veut. Et son âme veut ceci. Elle veut avoir, elle veut donner à son partenaire autant qu'elle en recevra. Elle veut l'égalité absolue de la balance. Ça va être là une participation de l'un avec l'autre, constant d'une façon à l'autre, mais tout en perfection. Et alors, la hiérarchie du dispositif du don est de la... Ici, il donne, là-bas, il reçoit. Car il faut savoir recevoir. C'est pas tout de donner, il faut savoir recevoir. Alors là, c'est la perfection de la réception aussi. Et la réception va revenir de la 9 à la première maison. Elle va revenir de la 11 à la première. Elle va revenir de la 10 à la première. Et vous voyez dans bien des thèmes des planètes en 7. Et un maître de 7, mon Dieu, le maître de 7 n'est pas très mal affiché, mais enfin les planètes en 7 ne le sont pas trop non plus. Non, elles ne le sont même pas du tout. Enfin, elles le sont quand même. Et vous dites, ah, mais il y a trois planètes là, nom d'un chien, voilà une femme qui a certainement été mariée. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Les planètes en maison 7 ne signifient pas nécessairement que la personne se mariera. Pas même qu'elle aura une histoire d'amour dans sa vie, attention. Une histoire d'amour ne sont pas les affaires de 7e maison, ce sont les affaires de 5. Dans les affaires de 5, et des dérivés de 5 qui sont souvent la 3 qui est la 11e de la 5. Alors les amis de la 5 deviennent ce qu'on appelle des passades. Et les passades, les petites passades s'appellent des choses de troisième maison. Pas parce que c'est troisième maison, mais parce que c'est la 11e. Il faut qu'il est à la 4. Je voudrais bien savoir quel est exactement l'axe de croissance de ma 4e à ma 10e maison. Il faut donc que je descende, regarder de très près la spirale montant tout le temps de ma 4. Il faut que je regarde mes origines, de ce qui est à la base, pour construire mon château avec des pierres solides à la base avant d'aller au fait. Oui. Je cherche à rendre concret dans ce à quoi je cherche à me hisser, qu'elle trouve là quelque chose qui soit pour elle l'équivalent d'une carte. Vénus font une Vénus. Parce que les 12 maisons s'accorderont parfaitement avec les 12 maisons et seront des accords toujours complémentaires et jamais les accords de conjonction sont les accords de complémentarité. Le zodiaque marche par complémentarité, ni opposition, ni conjonction. La complémentarité. La complémentarité. Quand les planètes passent par exemple en maison 11, les fortes planètes transitent maison 11 et que vous avez une forte maison 5, soyez tranquille, vous apprendrez à connaître la complémentarité de 11 pour la 5. Ce ne sera pas son opposition, mais sa complémentarité. Vous direz, ah, mon Dieu, je peux équilibrer enfin ma 5, n'est-ce pas? Je peux en quelque sorte la redresser, parce que la 11 est très occupée pour un temps, n'est-ce pas? Les maisons opposées par les grands transits sont un grand appui au stellium, masse de planètes dans une maison radicale. Donc, d'autre part, je veux que mon partenaire, mon âme veut que mon partenaire trouve dans ma 4, sa 10. Car ma 4, c'est la 10e de la 7. Comme la 10, c'est la 4e de la 7, la 4, c'est la 10e de la 7. Il faut que j'ai un partenaire qui aspire à quelque chose qui est à la base de ma propre croix. Il faut que la solidité constituée là, assurée là, à la base de ma croix, 4e maison, qui se dit, ah, mais là, c'est un terme pour moi. Ça, c'est un terme pour moi. Ça s'accorde avec mes aspirations. Il faut que constamment cette complémentarité assure que deux cercles deviennent un cercle, que deux thèmes deviennent un thème. Car c'est seulement si l'autre est aussi d'accord avec ma quatre, du point de vue de ses aspirations, que je suis d'accord avec sa quatre, lui, par ma dix, avec ses aspirations, avec, non, avec son sentiment de ce qui est fondamental pour lui. Mon partenaire doit trouver que ma carrière, c'est quelque chose qui représente pour lui quelque chose, non pas une carrière, mais quelque chose qui assure ses fondements. Ses fondements. Fondements. Extraordinaire, je pense tout à coup à un cas à Lausanne, celui que nous connaissons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Notre Hongroise. Où la carrière de son mari, il est mort maintenant, grand médecin de l'Égypte, la carrière de son mari, eh bien, à laquelle elle a voué tout son être. Naturellement, elle ne l'avait pas épousé quand il était jeune, il avait déjà pas mal monté sa carrière, sa profession. Il était déjà sérieusement reconnu dans sa partie. Mais toujours est-il que dans les 16 ans de mariage jusqu'à la mort de cet homme, on peut littéralement dire que la carrière de cet homme a servi actuellement de foyer, de siège, de point de départ, de fondement pour sa femme. Elle était littéralement là à considérer qu'elle en partait, que ce n'était pas pour elle un point d'arrivée, mais un point de départ. Ah oui, parce que c'était sa quatrième pour elle. Ça représentait une quatrième. Ah, mais c'est que nous sommes dans chacune de nos maisons quelque chose de notre associé, et elle a aussi. Dans chacune de nos maisons, qu'est-ce qu'il y a? Elle est partie? Ah, mademoiselle Fenette, mon Dieu, elle est aussi arrivée maintenant? Oh, mademoiselle Fenette, ma pauvre enfant. Mais ma pauvre enfant, il faudra bien qu'on vous donne un siège, mon ami. Ni les maîtres de la tête, ni les planètes vont faire. Ça indiquera certainement certaines choses, quelquefois l'essentiel. Et chercher la 10, et chercher la 4, et chercher la 5, et chercher la 11. Car s'il y a là des accords planétaires entre vous et l'autre, le mariage tiendra. La sept sera, on pourra dire, ils ne peuvent jamais se séparer et ils ne peuvent jamais être ensemble, n'est-ce pas? C'est un couple qui ne peut jamais être ensemble mais qui ne peut jamais se séparer. C'est la bagarre dès qu'ils sont ensemble, mais ils ne veulent pas en faire autrement que se continuer à se bagarrer pour toujours. Ça, ce sont des accords sur d'autres maisons du thème. C'est ça. Et se dire que toutes les maisons de votre thème ont un élément de votre balance, de votre associé. Que fatalement, il est là-dedans, comme par une maison complémentaire à la complémentarisme, il est là, peu dans une maison, beaucoup dans une autre, moyennement dans une troisième, mais il est présent dans tout. Et qu'il n'est pas et ne peut jamais être sur la balance avec vous. Il n'est pas présent à certaines, dans certaines façons, dans toutes vos propres maisons. Et qu'il est écrit, quelle la part qu'il en aura. Regardez par exemple, c'est classique, un homme devient veuf. Il a trois enfants. Rien que pour ces trois enfants en relativement bas âge, il leur faut une mère. Ils veulent se remarier. Ils veulent donner une mère à ces trois enfants. Ajoutons à ça, très normalement, il se dit, moi je ne peux pas vivre ça. Je ne suis pas bâti pour vivre ça. Ça ne fonctionne pas. Je suis cloché si je vis seul. Il me faut donc un foyer. Et donc, il me faut une compagne pour ce foyer, indépendamment des enfants. Mais il va se demander une chose, cet homme. Surtout si l'idée dominante, c'est l'intérêt des enfants, il va se demander si la femme qu'il épousera aimera ses enfants. Si elle ne sera pas jalouse de ses enfants, de l'intérêt qu'il leur porte, si elle ne sera pas hostile même à ses enfants, il faut qu'il pense beaucoup à ça. Si après un certain moment de champagne, quand elle devient sobre, le naturel ne reviendra pas au galop et puis que ça se tournera contre les enfants, ce qui arrive si souvent. Alors on regarde le fait, dit monsieur. Et on regarde tout de suite les planètes de 11e maison. Et le rapport entre les maîtres, le maître de 11 et le maître de 7. Et les rapports des planètes en 7 avec des planètes en 11. Mais d'abord le maître de 7 et de 11. Si ces deux sont en trigone, comme c'est normal qu'ils le soient, pas de 7 à 11. Et donc ici, 7 à 11, nous savons que sa compagne aimera ses enfants, parce que la 11e de l'homme représentera la 5e de sa compagne. La 11e de l'homme sera dans l'âme de l'homme ce qu'il recevra de sa compagne. Vous voyez que l'union ici ne se fait pas en 5, elle se fait dans le verso. Et que la réunion de deux êtres se fait dans le verso. Comment? Oui, alors.
Je n'ai rien dit.
Oui, d'accord. Eh bien, tant mieux si vous le pressentez maintenant.
Non.
Pas encore. Non. Qu'est-ce que vous voyez dans la honte? Non, d'accord. Comment? La honte? La 11e est interdite pour vous?
Non. Pas pour moi, mais pour le mariage.
Ah oui.
Pour l'entente.
Ah oui.
Ah.
Mais d'accord.
Ah.
D'accord.
Oui.
Regardez. Oui, alors voilà. Voilà une démonstration. La 11e maison, si elle est bonne en accord avec le maître de 7. Et le maître de 7 n'a pas besoin d'être en 7. Naturellement pas. Mais si ces deux sont en accord, et si par extraordinaire le maître de 7 se trouve vraiment occidental et le maître de 11 vraiment oriental, qui rendra l'accord encore plus précis, l'homme peut être tranquille, il ne peut épouser une femme qui ne sera acceptée par une femme que à cause peut-être même des enfants qu'elle aime d'office, et qu'elle aimera en tout cas tout de suite. Elle sera véritablement une mère pour ses enfants. Regardez, prenons la chose sous un autre angle, et dans le formidable paquet diplomatique que représente toutes les conditions du mariage de deux êtres, quelle valise diplomatique de documentation secrète et inconnue même des deux victimes représente les combinaisons possibles de leur balance. Documentation jamais explorée à fond par aucun être humain, vu que son existence va beaucoup trop vite et qu'elle arrive à son terme trop tôt. C'est une valise diplomatique qu'on vous plante entre les mains, disons, à 18 ans. Le temps, si vous voulez vraiment y donner du temps pour l'étudier à fond, vous arrivez à 70 ans, et maintenant tout d'un coup, on vous dit, maintenant fermez la valise, le train va bientôt arriver à terme, n'est-ce pas? Et vous n'en avez connu qu'un fragment. Et vous avez lu qu'un fragment à votre compagne, qui a d'ailleurs fait exactement la même chose que vous avec sa valise diplomatique, il disait dire la même chose. La valise, c'est on a un bouquin d'instruction spéciale quand on achète une voiture automobile, comment la lubrifier, la conserver et ceci, on en démonte toutes les parties, eh bien, il y a un manuel spécial pour la balance, je n'ai pas vous le dire, n'est-ce pas? Non, c'est horriblement plus intriqué que ça. Regardez. Dans le mariage idéal, il faut que la compagne ait vraiment beaucoup, se sent se sent capable de s'exprimer, de rayonner dans le monde de vos amis. Il faut que le monde de vos amis l'accepte. Votre 11e maison doit accepter votre 7. Si vos amis leur ouvrent leurs bras à votre compagne, elle pourra rayonner dans la 5e maison de la 7. C'est dur dans la vie quand il se trouve que vos amis n'acceptent pas votre femme. Ou alors l'inverse, que votre femme n'accepte pas vos amis. C'est un conflit entre maître de 7 et maître d'11. C'est dur. Et ça crée certainement des difficultés dans le mariage. Ça isole les éléments positifs du mariage qui ne peuvent pas s'étendre sur l'ensemble des 12 maisons. Hein? C'est comme ça. Regardez, et là-dessus je pense qu'il faudra quand même s'arrêter pour permettre quelques questions. Ah oui, c'est... Oui, enfin. Il n'y a pas trop chaud, ça va? Un tout ce monde ici comme ça. Ça vous intéresse, Madame Sylvain?
Non.
Bon. Ouais. Regardez, par exemple, la deuxième maison. Regardez votre deuxième maison astrologique. Ça a l'air bien innocent par rapport à la balance. Oh, ça a l'air bien innocent. Ça n'a pas l'air si innocent à ce qu'on a vu. Quand on pense à quel point elle peut être importante à la balance, il est important que vous apportiez de la sécurité à votre mariage. N'est-ce pas? Oui, c'est le quinconce, exactement. Il faut que ça serve cette balance, cette deuxième maison. Vous pouvez la regarder comme ça. Parmi les nombreuses significations de la 2, vous en prenez certainement celle-là, c'est la plus évidente. J'ai pas un sou, je peux pas me marier, n'est-ce pas? À moins que ma femme soit riche. N'est-ce pas? Et si ma femme est riche, je ne l'épouserai, je veux dire, moi je n'épouserai jamais une femme plus riche que moi. Ça me mettra en infériorité. Alors ça n'ira plus, n'est-ce pas? Ça dépend de nouveau de toutes les variétés des thèmes, ça. Au contraire, un autre dit, c'est merveilleux, je vais épouser une femme riche, n'est-ce pas? Le roi de France a épousé Catherine de Médicis, et ça a fait des transformations dans l'histoire et de l'Italie et de la France, n'est-ce pas? Pendant des siècles. Vous avez ça. Il peut avoir une très bonne maison 8 et une foutue maison 2. S'il a une très bonne maison 8, il dira, c'est par le mariage que moi je fais de l'argent, n'est-ce pas? Ou alors il a une très bonne maison 2 et une foutue maison 8 et il dira, c'est par moi-même que j'apporterai de l'argent dans mon mariage, c'est certainement pas le mariage qui m'en apportera. Autrement dit, la compagne, les conséquences de la compagne, l'héritage, je sais. C'est mathématique, c'est comme ça. Mais la autre maison 2, elle a un autre sens. Et c'est ça que je veux dire maintenant. Elle a un sens étonnant, très subtil, mais très réel. Votre maison 2, maintenant filez-moi ça bien, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Votre maison 2, pour votre partenaire, c'est sa 8e. Pas dans son thème, mais dans le vôtre. Dans le vôtre, parce que cette deuxième de vous, c'est quelque chose qui, dans votre âme, subjectivement, vous ne pouvez pas voir autrement votre partenaire que la façon dont vous voulez dans votre âme qu'elle vous voit. Vous ne pouvez pas avoir une optique réelle sur elle autre que celle que votre âme veut que vous ayez. Le mercure se déforme momentanément. Le jeu devant le spectacle des lunettes d'approche du mercure les poussouffle. Mais au bout d'un moment, tout se casse et vous voyez les choses avec votre âme. C'est l'horoscope qui parle. Et tout à coup, vous dites non, elle n'a rien compris à ma deuxième maison. Elle se comporte, ma femme, comme si ma deuxième maison, ça n'existait pas. Alors, vous me direz, mais si, elle compte bien sur votre argent, n'est-ce pas? Ah oui, elle compte sur votre argent, mais elle ne voit dans votre deuxième maison que votre argent. C'est-à-dire, elle voit la deuxième de... Elle voit l'héritage pour elle. Parce que votre deuxième étant la 8e d'elle, alors elle voit ce qu'elle va recevoir de votre deux. Vous comprenez? Mais il y a des héritages considérables, comme la huitième est un héritage considérable qui n'est pas que de l'argent. Elle est loin de là. Moi, j'ai Uranus en huit. La surcroît et les maîtres de l'ascendant. C'est un endroit formidable pour avoir un personnage comme Uranus, parce que lui, il est très exigeant de la compagne. Oh là 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 là. Oh, mais comprenez, il est dans la deux de la compagne, n'est-ce pas? Et il est dans la huitième de moi, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le scorpion? C'est pas dans mon signe, c'est la balance. Au fond, c'est le scorpion. Et c'est de nouveau maintenant, en choisissant spécifiquement 2 et 8, je fais valoir les significations profondes du taureau scorpion, qui est dans les signes les moins connus dans la pratique courante, surtout le scorpion. Or, le parallèle, qu'est-ce que j'appelle la complémentarité taureau scorpion, c'est complet. Regardez, par exemple, que la puberté amène, change la voix. La voix, c'est le taureau, la puberté, c'est le scorpion. Et la liaison constante de ces deux complémentarités. Sans un scorpion puissant, il n'y a pas un taureau puissant. Il n'y a pas. La puissance procréatrice de l'individu va déterminer la puissance de ses vocalises. Enfin, les acteurs vanériens, les femmes et les hommes, vous voyez ce que c'est, n'est-ce pas? Je connaissais un très bon professeur de chant, norvégien à Hollywood, qui me disait, quand un jeune homme arrive, que je vois entrer dans mon studio, prenant des tons de chant, je me mets au fond de la pièce et je vois la façon dont il marche dans une pièce immense. Et je vois venir à moi la façon dont il marche, les quelques mots qu'il me dit, son déhanchement, etc., me donnent tout de suite des indications sur son scorpion. Et comme ça, j'ai des chances de savoir tout de suite si ça vaut la peine de développer son taureau, sa voix. Et si je sens des déficiences du scorpion, celui qui me dit que ce n'est pas la peine d'apprendre la voix, il ne l'aura pas. Elle sera toujours fluette. Elle sera toujours fluette. Et ça, et il faisait la même chose avec les dames. Ah oui, ah oui. Il n'y a pas à dire, les très grandes amoureuses ont des très belles voix. J'entends les amoureux passionnés, les passionnés, n'est-ce pas? Mais oui, les passionnés, dont le déclenchement du scorpion est toujours quelque chose qui borde le gigantesque ou le gigantique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, vous imaginez les voix qu'elles ont. Quand vous lisez les biographies ou les correspondances de certaines grandes cantatrices, c'est absolument fantastique. Les ruptures d'équilibre dans le domaine de la balance. Oh, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et quels enfants elles sont! Parce que je me rappelle un célèbre cas dans le haut, c'était la grande chanteuse australienne, mais ça date aussi d'avant la Première Guerre. Qui?
Melba.
Je crois que c'est Melba. Non, c'est pas Melba, c'est une Australienne. Ah, mais vous étiez un
Melba, c'est pas Melba, c'est une Australienne.
Ah non, c'est un autre nom. Eh bien, je pense que c'est Melba. Melba a eu un impresario à New York qui a écrit un bouquin sur les expériences qu'il a eues comme impresario de grands artistes. Et entre autres, il avait un chapitre sur Melba. Ça date d'avant 1914. Et là, il raconte que, alors, Melba avait une tournée aux États-Unis. Il était l'impresario pour toute la tournée américaine, son siège était à New York, c'est un homme célèbre dans son domaine. Et alors, il raconte les déboires qu'il avait avec quelques-uns de ses artistes. Le contrat était là, les salles retenues, n'est-ce pas? Madame allait chanter avec tel orchestre à Chicago, Madame allait chanter dans telle salle avec tels autres chanteurs à Philadelphie, les dates étaient fixées, etc. Tout d'un coup, il reçoit, je cherche à me rappeler pour être exact, et il reçoit un télégramme désespéré du chef du théâtre de Chicago, n'est-ce pas, qui lui dit, venez vite! Ou alors il y aura catastrophe ici. Melba est tombée amoureuse du violoncelliste. Et le violoncelliste, et la femme, et l'enfant, et un pétard du tonnerre, n'est-ce pas? Et nous risquons de perdre toute la soirée, enfin tout va être foutu, n'est-ce pas? Parce qu'avec Melba, les choses n'y allaient pas qu'à ce moment. Le bonhomme n'a fait qu'une chose, c'était exactement, le bonhomme, le fameux monsieur, non, non, on reviendra tout à l'heure, le fameux impresario, il n'y avait pas d'avion à cette époque-là, il s'est dépêché de prendre le premier train de nuit, ça prenait 20 heures pour aller à Chicago. Il arrive à Chicago, hein, tâchons de dire, oh, moi, j'aurais quand même l'ascendant sur elle, je fixerai ça, je verrai qu'elle chante ce soir, parce que je crois ce soir-là même, je verrai qu'elle soit là, qu'elle chante, je ferai la retourner. Il se disait, ça va être quand même un fameux boulot, n'est-ce pas? Il arrive, il rencontre son collègue là-bas, et l'autre prend la tête dans les mains, et lui, il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Oh, c'est bien simple. Elle est devenue amoureuse du trombone. C'est ça. Il y avait eu un passage de l'un à l'autre, comme ça. C'est pour ça qu'il mentionnait particulièrement Melba. Je ne sais pas si les souvenirs de Melba que vous avez lus racontaient des choses pareilles. Mais M. Schoenborn a été impresario.
Non, pas moi,
ah, mais vous étiez impresario, vous. Ah, mais vous, vous étiez secrétaire de Toscane.
Non, je
ne
sais pas.
La crème de la fête, je ne l'ai pas tirée, c'est belle, ça date pour la fête. Eh oui, c'est vrai, la crème de la fête. On a fait des fêtes, on a fait la crème de la fête. Oui, elle a créé ça comme May West a créé la ceinture de sauvetage May West, n'est-ce pas?
Mais la pauvre
mère
qui est morte en avion, elle a écrit des lettres très pyrotiques, il y a des hommes qu'elle aimait.
Ouais, oui.
Et ça, j'en ai connu un particulièrement qui m'a dit, c'est
un vrai semblant, c'est quelque chose de plus. Ah oui, Grèce. Et Dieu sait la belle voix qu'avait Grèce, la voix magnifique de Grèce. Oh oui, oui. J'ai surtout connu par le grand film dont elle était l'héroïne et qui est sorti autour de 1934, par là, ce film, 34-35. Et elle est morte d'un accident d'avion, précisément, je crois, en 35-36.
Non, elle a tourné Louise encore en 1936. Elle a tourné
Louise
et elle est morte après.
Oui, alors revenons à la maison 2 et finissons la soirée là-dessus. Donc, votre maison 2, votre âme, Satan, supposons maintenant que vous êtes un personnage évolué. Par conséquent, votre deuxième maison dispose de beaucoup de choses. Votre compte en banque, hein. Elle dispose de beaucoup d'avoir. Ah, mais elle dispose de beaucoup d'avoir. Vous avez beaucoup de possessions. Et vous avez des possessions qui sont des possessions subjectives et non pas visibles. Car 2 et 8 ont à la fois le visible et l'invisible. 2 et 8, c'est le visible et l'invisible. Moi, mon Uranus en 8 n'est pas intéressé dans un héritage visible de ma compagne. Mais bon Dieu, ce qu'il est intéressé dans l'héritage invisible de la compagne, c'est-à-dire ce qu'elle porte dans son inconscient. Parce que la 8, c'est l'inconscient de la 7. C'est le monde de l'inconscient de la 7. Qui est conscient dans la 7 est inconscient en 8. C'est la complémentarité de ça. Ou si vous voulez, la subjectivité de l'autre. C'est ça comme ça. La conscience est un très vaste terme, beaucoup trop vaste. Mais la subjectivité de l'autre, c'est la vie. Ma subjectivité, c'est ma 2. La preuve de ça, évidente, c'est que quand je pense, moi, bélier, première maison, quand je prends conscience de la journée, quand je pense à ma 2, je pense à tout ce dont je dispose. Immédiatement est à ma disposition. Je trouve les outils de mes heures immédiatement à la disposition dans ma 2. Ce n'est pas ma 5, ce n'est pas ma 4, ce n'est pas ma 6. C'est ce sur quoi je peux rouler. C'est ma deuxième maison. Quand vous avez tout le principe du verbe auxiliaire avoir, je suis première maison, j'ai deuxième maison. Mon collègue, ma septième maison, il est je suis en face de mon je suis. Mais ce qu'il a est en face de ce que j'ai. Et je cherche dans sa vie, dans ma vie, ce qu'il a. Et il attend, il escompte mon associé. Ma femme, qui l'accompagne, ma balance, va escompter, je dois escompter, elle va escompter normalement, que je cherche dans ma vie ce qu'elle a dans son subconscient, dans son subjectif, que je puisse trouver, dans son avoir, dans son avoir. Et moi, je cherche, moi, mon âme, pas moi, j'en sais rien, mon âme veut que ma compagne trouve dans ma deux des éléments subjectifs qui soient quelque chose qu'elle puisse apprécier et utiliser, parce que ce sera pour elle ma façon de concevoir son rapport avec sa vie, à elle. Vous comprenez? Alors, je vais vous donner un seul exemple de ça. J'ai une très chère amie en Amérique qui a son Neptune en deux, dans le Lion. Elle est mariée, elle a 4 enfants. Eh bien, elle a certains problèmes marqués avec son mari. Et ce n'est pas toujours facile et loin de là. Mais l'une des choses dont elle a souffert, et c'était dû à la combinaison des deux thèmes, c'est qu'il ne pouvait jamais voir la valeur de sa deuxième maison, le Neptune dedans. Ce qu'elle avait d'avoir spirituel, Neptune en deux, c'est l'avoir spirituel par excellence, l'avoir le plus surnaturel, c'est un avoir surnaturel d'avoir un Neptune en deux. Avoir surnaturel est dans le Lion, n'est-ce pas? Ça vous garantit d'ailleurs de ne jamais vraiment crever de faim, d'avoir un Neptune en deux. Et c'est une façon de dire que l'avoir surnaturel sait descendre dans le taureau, n'est-ce pas, et qui se transforme comme la manne dans le désert pour les Israélites. Les Israélites devaient avoir à ce moment-là dans leur thème un Neptune en deuxième maison, comme tribu. Quelque chose comme ça. C'est extraordinaire ce que ça donnait. Alors, l'année dernière, Uranus est venu à ce Neptune en deux. Et elle a un Uranus magnifique, et lui, alors, en os à la maison. Il est venu à ce Neptune en deux. Pour la première fois,
les 3/4 du temps, nous faisons une approximation, souvent après, et en réalité, nous voulons donner un nom à quelque chose, il y a des chances que ce soit un nom qui ne convient pas du tout à la chose. Donc, c'est tout à fait. Il s'agit de trouver l'étiquette de cette bouteille. Et pour trouver ça, j'aime autant vous dire, alors l'astrologie, c'est sa fonction suprême, et c'est la méthode suprême pour atteindre le nom divin, le nom que le ciel nous murmure lourdement sur toutes nos situations, quelles qu'elles soient. Déchéance, déchirement, désespoir, optimisme, emballement, tension, tout finit par être bâti sur une série de noms. Arriver à trouver le nom propre à tout, c'est impossible dans une vie terrestre. Mais cerner de plus en plus le nombre de noms que nous trouvons juste, le nombre d'étiquettes sur le nombre de bouteilles toujours plus grand, et le nombre d'étiquettes juste, c'est toute l'histoire de notre vie en astrologie. Et pour vraiment tenir le coup en astrologie, et pour vraiment pénétrer dans ce temple formidable, il faut être outillé, en tout cas, de deux points d'interrogation qui agissent vraiment comme des tournevis. Avoir en soi le tenaillement du pourquoi et le tenaillement du comment. Pourquoi, pourquoi,
Pourquoi suis-je? Pourquoi ai-je? Pourquoi fais-je? Pourquoi aimais-je? Pourquoi détestais-je? Pourquoi je monte? Pourquoi je descends? Pourquoi je enfin, pourquoi à tout? Du plus petit, les événements, jusqu'au plus bas. Jusqu'aux considérations les plus cosmiques de notre nature. Pourquoi? Et puis ensuite, comment? Comment? Les deux sont toujours ensemble. Et alors, autant vous dire que, étant donné nos cerveaux, nos calibrages, notre physiologie, notre nature, c'est autant chercher en réalité d'aborder et de s'attaquer à des blocs de granit avec une pince à sucre. Notre intelligence y va avec une pince à sucre. Et qu'est-ce qu'elle attaque? C'est certainement pas des morceaux de sucre, ni des grains de sable. Elle attaque des solides blocs de granit, n'est-ce pas? Et il s'agit de dénoyauter ce granit avec une pince à sucre. Donc vous imaginez avec de quel subtil acier cette pince à sucre doit être faite pour arriver finalement à décortiquer la cohésion du granit et en faire quelque chose qui soit assimilable à nous. Aussi, ne soyons pas étonnés si le progrès de la science astrologique est très, très lent, qu'il doit être très lent, qu'il passe aussi par des phases de victoire sur un terrain, un échelon, pour ensuite avoir un long temps d'arrêt avant de passer à une nouvelle découverte, et ainsi de suite. C'est un peu près de toutes les sciences. Et en effet, l'essor formidable des sciences depuis un siècle, en tout cas, et depuis un demi-siècle surtout, qui est encore dû à un célèbre pourquoi et un célèbre comment, indispensable, nous montre bien que l'astrologie participe à ce mouvement général du calibre humain qui cherche le pourquoi et le comment. Car en réalité, derrière toutes les petites curiosités humaines qui nous gratouillent quand on veut aller entendre une conférence ou suivre un cours, derrière tout ça, il y a en nous-mêmes ce quelque chose qui appelle, qui dit pourquoi, pourquoi, pourquoi et comment. Et qu'au fond, au bout d'un moment, quand vous avez découvert que le pourquoi et le comment, dans une certaine mesure, très modeste, a trouvé une réponse, vous voilà mis en appétit d'en avoir d'autres. Et si vous avez vraiment l'étoffe de la recherche, vous ne vous arrêterez jamais aux petites réponses des petits pourquoi et les petites réponses des petits comment. Vous voudrez, alors vous direz, je suis sur la voie royale maintenant. Alors maintenant, continuons. Mais vous ne continuerez que si, par votre nature, les pourquoi deviennent de plus en plus incessants et les comment aussi. D'ailleurs, si le pourquoi est incessant, le comment le sera. Or, Saturne, c'est le pourquoi et le comment. C'est l'entrée en matière. C'est un signe de maturité. Lorsque Saturne arrive au terme de son cycle de première maturité à 29 ans, et surtout à son cycle de deuxième maturité à 58, c'est le moment où le pourquoi, pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, vraiment, bat la chamade. Et alors, on voit les esprits chercher. Mais au fond, aussi, j'ai trouvé très joli où je me baladais jusqu'à présent, ce n'est aucun empêchement. Il y avait des fleurs, c'était joli, c'était confortable. J'étais dans un corps confortable. J'ai jamais même pensé à mon corps, j'ai jamais été malade. J'ai jamais eu de malheur dans ma vie. Je n'ai jamais vu ceux des autres, à ce point-là, n'est-ce pas? Oui, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est au fond, mais au nom d'un chien, où suis-je, n'est-ce pas? Où suis-je? C'est le commencement du coup sur la tête. À ce moment-là, on devient anormal pour une bande de gens qui n'y pensent jamais. Mais c'est le moment où l'on commence à devenir normal. On entre dans la normalité de l'espèce humaine. Jusque-là, on a été un animal, un joyeux animal, avec le potentiel humain. Il n'y a rien qui soit plus souverainement le signe de l'esprit dans l'homme que le développement d'une astrologie réelle, le développement du signe de l'homme en nous. Par les disciplines, par les exigences et par les satisfactions. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'ai fortement senti ça en moi-même de nouveau ce matin, on commence à la journée. Et surtout, j'ai sorti la fameuse pince à sucre pour attaquer le granit. Parce que hier, quelqu'un me demandait, lorsque j'ai passé une certaine crise de flottement dans l'intérêt et dans la capacité de travail astrologique, on m'a demandé s'il avait perdu foi à l'astrologie. J'ai dit, oh, jamais. Je n'ai pas perdu foi dans l'astrologie, mais j'ai perdu foi en moi. J'ai perdu foi en l'alpiniste. Je n'ai jamais douté que le sommet, la cime, la montagne était là, que c'était un fameux Cervin. Mais quant à savoir si j'étais outil et pauvre, j'avais des moments de fort doute. Je me suis dit oui, à ce moment-là, évidemment, la découverte n'était qu'une misérable petite pince à sucre et que tout attaquait. Un vaisseau beaucoup trop dur pour une pince à sucre et que j'ai faussé la pince à sucre. Attention, il ne faut pas la fausser, la pince à sucre. Il faut proportionner, toujours la proportion. Et puisque nous parlons de proportion, c'est je crois une manière magnifique d'entrer en jeu sur le grand mystère des progressions en astrologie. Et voici, nous ne sommes plus dans les transits. Nous en avons parlé, il y a un monde dans les transits. Mais ce soir, je concentre entièrement sur le mystère des progressions. Et j'ai dit les progressions parce qu'il y en a deux essentielles, les progressions primaires et les progressions secondaires. Et je vais les mener les deux ensemble. La loi qui régit tout, de nouveau, du moment que nous n'avons pas atteint une finalité, et que nous n'avons jamais atteint, on ne peut jamais atteindre la fin d'un cycle sans être déjà envoyé sur le suivant, puisque ce n'est pas sur un cercle que nous opérons, mais sur une spirale. Le fait que c'est ce mouvement constamment exige de nous non seulement l'équilibre bâbord, tribord de notre navire, mais exige aussi l'équilibre proue et poupe. C'est-à-dire, il faut que le mouvement en avant soit rigidement compensé par un regard en arrière. Il faut constamment, pour mieux repérer son objectif, il faut repérer son point de départ. Parce qu'il faut savoir, donc, parce que dans n'importe quelle situation, par rapport à un objectif quelconque, nous sommes toujours sur un axe. Nous sommes toujours sur un axe de direction. Et l'axe de direction, vous ne le saurez jamais par votre objectif, vous le saurez par d'où vous sortez, votre point de repère. Et c'est toujours, en somme, le principe de la verticale de la croix qui entre en jeu ici. D'où est-ce que ceci part, puisque devant moi j'ai tel objectif, je suis donc sur la ligne de mon objectif, par rapport à quoi? Et c'est ce mouvement qui est, en somme, un mouvement de réflexion, la mémoire qui regarde le passé et la ligne de montée de l'axe, qui nous aide à repérer aussi dans quelle direction exacte se trouve le but. Les progressions secondaires et primaires font exactement cela. Prenez l'image de l'arbre. L'arbre vous fournira les plus grands éléments d'éclaircissement sur le mystère des progressions dans la vie, les progressions organiques sur tous les plans. Progression de l'individu et progression de ses associations avec d'autres individus, c'est-à-dire avec des collectivités de plus en plus complexes, à mesure que lui-même devient de plus en plus complexe. Toujours parité. L'arbre. L'arbre a une graine au départ. Mais l'arbre nous se caractérise par le facteur branche, tronc et branche, avec là-dessus, feuilles, fleurs, graines et le reste, mais je veux simplement centrer aujourd'hui sur le facteur branche un instant. C'est l'expansion de l'arbre au soleil. C'est son épanouissement. Or, l'épanouissement, nous le savons, il n'existe qu'à condition qu'il y ait des branches. Et s'il y a des branches, nous savons qu'il y aura le reste. Oui, mais il y a un autre facteur aussi capital que la branche, c'est la racine. Alors, le mouvement d'énergie qui part d'un mystérieux centre de l'arbre, de la graine, s'en va dans une direction géocentrée, géotropique, qui est la graine, qui est la racine. Et d'autre part, elle va héliocentrée, c'est la branche. Donc il y a d'un côté le mouvement d'expression, de manifestation, de sortie, d'extériorisation, mais le compensateur à ça, obligatoire, c'est le mouvement d'intériorisation, d'introversion, d'inversion, qui est la racine. Dans le thème, nous avons les branches, et ce sont les progressions secondaires. Et dans le thème, nous avons le début du système de la racine, et ce sont les progressions primaires. progression primaire. Elles sont appelées généralement en français direction primaire. La raison pour laquelle, c'est certainement une question, je pense, de l'histoire de la terminologie astrologique française, c'est que on n'a pas eu conscience, je pense, des progressions secondaires. On a pensé qu'aux directions primaires pendant très longtemps. Beaucoup d'astrologues français n'ont pas pratiqué la secondaire. Elle est venue, je crois, en France après coup, et elle est venue par la voie anglo-saxonne, qui la pratique énormément. Qui la pratique énormément, aussi bien qu'elle pratique la primaire. Toujours est-il qu'au fond, c'est une idiotie de parler de direction primaire et de progression secondaire. L'un ou l'autre, on pourrait dire tout simplement. D'ailleurs, dans les livres, on appelle ça système de direction. Le système de direction. Or, ça veut dire, c'est le verbe diriger un astre vers un autre, diriger un arc, un degré vers un autre, diriger une pointe à une pointe. C'est ça l'idée de ils vous diront, dirigez-moi l'astre de ceci à ça. Et voyez ce que ça donne. De diriger l'astre, c'est une façon de parler. Mais en réalité, je crois que le terme progression est plus juste. Parce qu'une direction n'indique pas nécessairement une progression. Ça indique un calcul, un système de référence, un ajustement. Et une progression indique tout à la fois. Vous progressez, ça indique une direction, ça indique tout ce qui est les calculs de la progression et du champ dans lequel cette progression a lieu. Je préfère moi-même le mot progression. Un arbre se dirige, est dirigé ou se dirige, mais enfin, est-il pas plus vrai de dire qu'un arbre s'épanouit, qu'un arbre s'ouvre, n'est-ce pas, que l'être humain s'épanouit, qu'il s'ouvre, qu'il a des branches, et puis des branches de branches, et des branches de branches de branches, des branchettes, etc. Donc, ici, prenons le mot progression primaire et progression secondaire. Progression secondaire, pour commencer, donc c'est maintenant l'étude de l'embranchement de votre thème de naissance que vous devez maintenant considérer comme la graine, mais la graine, c'est la structure de la graine. C'est un point d'arrivée de quelque chose qui vient à la graine par les racines et qui part de la graine vers les racines. Car enfin, cet arbre qui envoie une racine dans le sol, il y va chercher quelque chose. Mais il lui apporte aussi quelque chose. Et c'est un mouvement de va et vient. Donc, dans la racine, il y a le mouvement qui s'en va du thème, du centre en arrière, et il y a aussi le mouvement qui part du centre en avant. Mouvement du centre en arrière, ce sont les racines. Mouvement du centre en avant, ce sont les progressions secondaires, ce sont les branches. Et mouvement du centre en arrière, le mouvement le plus nettement calculable et le plus certain de vous donner d'immenses satisfactions, facile de démonstration, c'est les progressions primaires. Regardons un instant les progressions primaires. Sont-elles connues ici et pratiquées ici par quelques-uns d'entre vous? Monsieur Schoenbach.
Relativement peu.
Peu. Parmi vos... Ah oui. Vous, les Allemands, vous avez beaucoup fait de secondaire, n'est-ce pas?
Oui.
Ça dépend des écoles, évidemment, et des groupes, et puis des individus, parce qu'il y a là-dedans le facteur individuel qui est énorme, n'est-ce pas? Mais parmi les Français que vous connaissez...
Il y en a qui
font...
Mais Bouchon, c'est une séquence totalement, n'est-ce pas? Alors ça, nous savons d'emblée que... Ah, c'est que Bouchon date d'avant la guerre, il n'a guère bougé depuis, d'après tout ce que je sais, n'est-ce pas? Nous allons voir dans un instant les progressions primaires. Nous allons comprendre pourquoi il dit qu'elles sont valables, les bontés divines, quand nous voyons comment la progression secondaire joue. Mon Dieu, comment on peut douter de ça, vous comprenez? Eh bien, boucherie téléconverse, eh bien, boucherie encore.
Non, les secondaires,
oui. Ah, il faut les secondaires, mais bien sûr que c'est plus facile. Bien sûr que c'est plus facile. C'est plus pratique parce que les secondaires, puisque c'est la progression des branches, vous imaginez bien que le mouvement de la vie dans les branches est beaucoup plus facile à repérer dans les racines, parce que d'abord dans les racines, elles ont une tendance à être sous terre, n'est-ce pas? Vous comprenez? Il y a tout ça, et quand vous voulez vraiment être dans le pourquoi, et comment,
force vous aide à aller aussi dans les racines, même si ça ne vous plaît pas. Alors, il y a des tempéraments qui n'adorent fouiller que dans les racines. Et d'autres tempéraments, naturellement les plus nombreux, aspirent qu'à humer les fleurs des arbres, etc. etc. Donc, après, c'est plus facile. Comment ? Le collège astrologique de Néroman s'occupe de racines, vous aussi.
À mon avis, on peut se passer des primaires, on ne peut pas se passer des secondaires.
Vous avez parfaitement
raison. On peut se passer du solaire, mais pas des secondaires.
Ah, vous avez parfaitement raison, Schoenbaum. Nous avons ici en M. Schoenbaum un homme qui a qui est de source autrichienne tchèque et qui a beaucoup travaillé l'astrologie depuis plus de 20 ans. Et il a vu beaucoup d'écoles astrologiques un peu partout, puisqu'il parle trois langues et ses réflexions sont bâties sur un nombre d'observations. C'est une sorte de petit annuaire des courants astrologiques de l'Europe occidentale. En bref. Mais enfin, moi qui n'ai vraiment pas le temps ni l'énergie pour aller voir un peu ce qui se passe ici ou là, dans un autre pays, surtout l'Allemagne, alors si ici il le sait, alors il le dit et ça met un temps de temps, n'est-ce pas? Car j'ai le sentiment qu'il voit juste et que ce n'est pas un reportage faux. Bref. Vous allez voir la chose phénoménale, et ça va vous ouvrir un monde. Et c'est sur ce monde-là que je veux et que je dois conclure sur cette série. Pourquoi est-ce que les professions primaires sont plutôt délaissées par ceux qui font les secondaires? Et que ceux qui font les secondaires marchent à fond dans les secondaires avec la tendance à négliger les primaires. D'abord parce que c'est beaucoup plus évidentiel. Pourquoi est-ce que c'est plus évidentiel? Je le dis tout à l'heure. Secondement, il y a une raison, alors là, évidemment, très compréhensible. La primaire ne marche bien, vous marche pile qu'à la condition que le moment de naissance soit dégagé. La secondaire n'est pas absolument nécessaire du tout pour ça. Vous allez voir pourquoi. La primaire est basée sur l'exactitude du degré de la 10e maison à la naissance. N'est-ce pas? Quand vous prenez vos tables des maisons, notamment les tables anglaises, vous voyez que le temps sidéral est divisé de 4 minutes en 4 minutes. Évidemment, je ne veux pas être chinois, ce n'est pas exactement 4 minutes, c'est 3 minutes 58 secondes, etc. Juste pour ça, n'est-ce pas? Nous disons 4 minutes de temps sidéral. Le calcul suffit parfaitement, en tout cas pour les 40 premières années de la vie. N'est-ce pas? Ça barbe. Le diable voudrait nous embrouiller le cerveau en nous faisant chanter dans les secondes, n'est-ce pas? Or, nous n'avons pas plus d'énergie qu'il n'en faut, et surtout à notre époque, nous avons tout juste assez d'énergie nerveuse pour aller au plus pressé. Au plus pressé. Tant qu'il est exact, ça va bien. Alors, je reviens à ça. Quand vous travaillez les tables des maisons anglaises, et le temps sidéral vous est donné, vous verrez que tout de suite, la première colonne vous donne la 10e maison. Temps sidéral pour la 10. Temps sidéral pour la 10, et vous verrez tout à coup, pour 23h10, c'est 10 scorpions pour la 10, disons. N'est-ce pas? Et ensuite, la 11 sera Sagittaire, et ensuite la 12 sera Capricorne, et ainsi de suite. Autrement dit, ça c'est déjà bâti sur la notion de l'importance de la progression primaire. La progression primaire. Le temps sidéral sur la 10e maison, c'est le temps sidéral capital, c'est pas celui sur l'ascendant qui est capital, c'est la 10e maison qui est capitale, c'est l'enracinement, c'est le lien ombilical avec tout le système solaire. C'est le zénith du thème, c'est le zénith de la Terre, et tout part du zénith et descend au nadir. Et tout va être maintenant suspendu à ce zénith, et la première maison, et par conséquent sa contrepartie, la 7, et d'accès là-dessus. Nous n'avons pas le milieu du ciel que nous avons à cause d'une première maison, mais nous avons une première maison que nous avons à cause du milieu du ciel. Voilà. Et c'est ce degré de temps sidéral, cette minute de temps sidéral de 10e maison qui compte maintenant souverainement pour le calcul des progressions primaires. Vous allez voir. Donc, vous savez très bien que c'est une fois sur 50 qu'on a l'heure de naissance exacte, c'est-à-dire la minute. Vous comprenez, il ne s'agit pas d'heure maintenant, il s'agit de minutes. Or, vous pouvez avoir une variation. Vous imaginez qu'en 4 minutes, on peut vite faire une erreur sur le moment de naissance. C'est-à-dire le moment où l'enfant a aspiré l'air extérieur et a incorporé dans son sang un élément extérieur sans avoir plus à passer par sa mère. Le premier cri. restons-en là ce soir pour l'amour de Dieu, parce qu'il y a encore pas mal de petites chicaneries sur la question du premier cri. Mais l'essentiel, c'est ça. Et 99 fois sur 999 fois sur 1000, tout se passe comme si cette fonction du premier cri était celle vraiment de la naissance. Eh bien, ce temps sidéral, vous voyez que vous avez un jeu là. Très rapidement, l'erreur est de 4 minutes et vite fait. Or, 4 minutes, vous changez de feu du milieu du ciel. Tout ça, vous le changez de 4 en 4 minutes, vous le changez d'un degré, d'un degré, d'un degré. Voilà pourquoi il est si important d'avoir le temps exact de la naissance. Quand vous arrivez à milieu du ciel à 29 d'un signe, 29 du Verseau, vous dites, bon Dieu, est-ce que c'est le premier du poisson ou le 2 du poisson, n'est-ce pas? Et alors là, le système des vérifications, qui heureusement est pour moi extrêmement facile en général, puisque l'on fait jouer les maîtrises, là, de cette science tenante, qui déboutonne la vérité. Mais ce temps sidéral de la dixième maison est important pour fixer la croix, parce qu'il vous fixe la maison. Le temps sidéral de la dixième maison du zénith vous fixe la croix, c'est tout ce qu'elle fixe, c'est tout ce qu'elle doit fixer, et donc, et par conséquent, les maîtrises qui correspondent à ces bras de croix. Oui, mais si elle fixe la croix, si elle fixe la croix, elle l'embouche, cette croix, sur la croix cosmique du soleil. Parce que la dixième maison, c'est le Capricorne. C'est la fonction saturnienne essentielle, c'est le raccordement toujours du centre de gravité que le soleil a par rapport à la Terre. Et du même coup à la Lune, c'est le centre de gravité commun. Terre et Lune qui est en jeu par rapport au soleil. Et c'est le soleil qui en a tout. La responsabilité, qui en est la cause principale, qui en assure le fonctionnement en vertu. Comment l'assure-t-il? Par le temps sidéral de la pointe de la dixième maison du thème habitat. Votre raccordement au système supérieur à vous, le raccordement qui assure l'équilibre de vos parties, et surtout la partie lune et terre, car votre thème, c'est la terre, n'est-ce pas? Et quand nous parlons maintenant du soleil, nous ne parlons pas du soleil qui est la Terre, parce que la Terre est un soleil aussi, et quand nous parlons de la Terre, nous parlons du zodiaque du soleil de la Terre. Moi, c'est une longue phrase, alors on dit simplement la Terre. Mais ici, je parle du soleil dont la Terre est satellite. Or, le centre, l'action gravitationnelle de ce soleil par rapport à la Terre, son point d'embouchage, c'est la dixième maison du thème. C'est le lien ombilical avec le système supérieur. C'est pas le lien ombilical avec la Lune, mais avec le système supérieur. Et cet embouchage, pour employer un terme de plombier, cet embouchage en 10 est d'autant plus important parce que de cela va dépendre la façon dont la Lune va respecter la Terre. Il est assez naturel que ce système d'équilibre entre la Lune et la Terre, constamment rompu, constamment retrouvé, mais retrouvé en vertu de la dixième maison, toujours, à la base. C'est la loi du cosmos, c'est la loi d'équilibre du zodiaque. Alors, l'importance du degré sidéral, l'importance de ce point et de son degré est une chose capitale, d'autant plus qu'elle nous donne immédiatement celle de la 4. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la 4 ici. Ça, c'est l'arrière-disque que vous allez trouver le secret des progressions primaires. Parce que, voyez-vous, vous avez toujours deux mouvements, et c'est ça qui intrigue et qui dérange l'esprit. Mais il faudra que lentement cet été, vous vous habituiez à considérer toute activité jouant sur deux plans, l'un dans un sens et l'autre dans l'autre. Fonction racine, fonction branche. Tout est ça. Le sens réel des 12 signes du zodiaque se retrouve ici, encore une fois, sous l'image, sous l'horizon, sur l'horizon, dessus et les deux mouvements. Vous ne pouvez pas faire l'un sans faire l'autre. Vous êtes un être perdu si vous ne pouvez pas retrouver votre point d'embouchage dans la tuyauterie du grand soleil. Si vous ne pouvez pas, si vous avez dévissé cet embouchage, s'il a été tordu, s'il a été étiré, S'il s'est étendu trop loin latéralement, le danger de la rupture d'équilibre total et de la force gravitationnelle supérieure est très grand. C'est une des formes, d'ailleurs, que nous payons dans certaines maladies et dans la folie. Bon, passons, il y a tant à dire, et c'est tellement vivant en moi en ce moment. Voilà. Regardez. Les progressions secondaires, j'ai en parlé tout à l'heure, mais elles vont devenir alors tellement claires, une fois que vous aurez compris ceci. Parce que c'est ceci que les gens ne saisissent pas. Parce qu'on parle de transit, et on a bien raison, seulement le transit nous intéresse toujours, nous prend l'esprit, et nous donne toujours l'image d'un mouvement qui est contraire à celui du monde. On voit tout le temps ce mouvement, qui est d'ailleurs le mouvement de la Lune, n'est-ce pas? On voit ce mouvement de la Lune tout le temps, tout va comme ça. Et la Terre va comme ça, et oui, et la révolution de la Terre autour du Soleil, ça va comme ça. On n'a que ce mouvement dans le système, dans le corps, dans l'imagination. Mais il y a l'autre. Les progressions primaires, c'est l'autre. Parce que tout ce mouvement qui va comme ça, c'est un mouvement qui va vers l'extérieur, vers l'extension. C'est un grand mystère. C'est le mystère de notre âme. Et le mystère de l'âme de ce monde. Et le mystère de l'âme du soleil. Et ainsi de suite. C'est une affaire d'extension. Tandis que, mais qui dit extension, nécessairement dit d'autre part intégration. Donc intériorisation. Le mouvement de retour. Il y a une rivière, mais une rivière, elle a deux sens. Le courant descend, mais on peut le remonter. On peut le remonter. Et ce qu'on appelle l'effort qu'il faut faire pour réfléchir, mais ce n'est pas autre chose que de ramer contre le courant. Il n'y a rien de plus facile que de décrire quelque chose. La pensée descriptive, qui est typiquement celle du Gémeau, elle décrit. N'importe quelle personne qui a la tête fatiguée peut toujours lire une petite histoire drôle ou un petit drame bien sanglant, n'est-ce pas, bien mouvementé dans le journal, n'est-ce pas. Moi, quelle que soit la fatigue, des faits divers de journaux, ou simplement un livre d'histoire où l'événement est conté avec une certaine vivacité, ne me fatigue pas du tout et me distrait mes nerfs. Mais alors la réflexion, attention, ce n'est plus d'aller courir voir ce qui se passe, c'est suivre et descendre le courant de l'existence. Parce que vous vous mettez dans l'existence des autres quand vous prenez la description. Vous vous mettez dans l'esclavage. Alors vous suivez quand vous suivez leur existence, vous descendez avec eux. C'est le courant qui descend. Mais la réflexion. Mais le pourquoi? Mais le comment? C'est remonter le courant. Alors il faut des muscles. Et il faut le remonter. Or, c'est le mystère de la vie, mes amis. Il faut les deux opérations. Il faut descendre le courant. Vers un mystérieux débouché dans un océan inconnu. C'est pour ça que je parle de la pince à sucre pour les blocs de granit. Il ne faudrait pas chercher trop vite à mener cette pince à sucre au grand mystère de l'océan dans lequel débouche la rivière. Je vais essayer, c'est dangereux. D'autre part, il faut remonter la rivière. Et c'est extraordinaire.